un certain Jules Isaac. Et ça, il faut le faire. S'appeler Isaac et Jules. Non. Vous avez compris la suite. Alors, à quoi ça ressemble? C'est que le patriarche Isaac a voulu vraiment vérifier si Ésaü aimait Jacob ou pas. Parce qu'il a fermé les yeux, il ne voulait pas voir que Isaac haïssait Jacob. Relisez la Bible. Que Ésaü, oui. Je le confonds toujours d'ailleurs. Mais elle vous a remarqué ça marche pas très bien de ce côté-là. L'autre fille d'Isaac, qui s'appelle Ésaü, Isaac là, avait de la complaisance pour lui. Il a fermé les yeux. Alors un jour, il a décidé, je vais descendre voir ce qui se passe. C'est très rare, un nom de famille juif, Isaac. Isaac, c'est un prénom. Un nom de famille, Isaac. Car, vous vous rappelez, quand j'étais enfant dans les écoles, les livres de Malé et Isaac, je ne savais pas qu'un jour, Jules Isaac allait écrire l'enseignement du mépris ou chez Dieu Israël. Et c'était un juif qui avait décidé de s'assimiler complètement. Et puis, la persécution arrive, il a perdu sa femme, il a perdu les membres de sa famille, c'est un grand historien. Il se dit, il y a quelque chose qui tourne par là-dedans, je vais chercher les causes de l'antisémitisme. Il les a trouvées dans le christianisme. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'il ne voulait pas du tout opter pour le judaïsme, pas du tout. Mais il avait été pris par ce problème humain, et en toute honnêteté d'historien, il voulait y voir clair. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il a fondé avec Edmond Fleck la métier juive de chrétien, les points de Selisberg et toute la suite. Et alors donc, c'est comme si notre patriarche Isaac a décidé de venir voir de quoi il s'agit, et pour être objectif, il a pris un nom romain, celui des Césars, Jules. Hein? Et voilà ce que Jules Isaac a découvert, que vraiment Ésaü n'aime pas Jacob. Alors c'est fini, on l'Ésaü. Ésaü. Et voilà ce qui se passe. Je vais te prendre des points de vue.
Ce qui est le plus frappant dans l'œuvre d'Isaac, c'est qu'il part des points de départ suivants. Toute ma famille a été massacrée parce qu'elle s'appelle Isaac. Mais oui, vous montrez et tout, son histoire propre, la rencontre de Messie, entre les deux conceptions des Messie. Elle a eu lieu souvent, mais une fois très significative, quand Théodore Herz est allé voir le pape, et que le pape a commencé par lui dire, commencer par reconnaître, etc. Or, cette prophétie, pas celle de Malachie, mais d'autres, chrétiennes.
Oui.
C'est des prophéties de Bilam, des vraies prophéties romaines. Des prophéties que le dernier pape sera juif, et que je jure à Jérusalem. C'est un signe. Mais un autre signe, beaucoup plus important à mon avis, c'est que dans 2000 ans d'église chrétienne, la cité sainte n'a jamais été Rome, mais Jérusalem.
Exact.
Ça, c'est sans équivoque.
C'est sans équivoque. Et c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle l'événement du sionisme, s'inscrivant dans cette analyse, prend de nouveau un caractère massif. Quand est-ce que ça se passe? Quand les Juifs reviennent sur la terre d'Israël. Vous comprenez? C'est le signe de la fin du temps de la messianité chrétienne. Comme vous l'avez dit, je pourrais ajouter d'autres références. D'après en tout cas, et Saint-Malachi, et Malachi Boudou, et Nostradamus, et peu importe si c'est des coïncidences ou pas, le pape actuel serait l'avant-dernier. Mystère, il a décidé qu'un juif polonais qui se prend pour un français serait archevêque, ce papa Bilek, comme vous dites. Il est probable, je sais peu importe, il est probable que ce soit ce juif-là qui sera le dernier pape réfugié à Jérusalem. Mais donc, c'est ça que je veux dire, c'est la fin de cette histoire. Et quand est-ce que ça arrive? Quand les juifs retournent en Israël et que les arabes sont pas contents. Bien, on va prendre 5 minutes et on se revoit. Et on vient me reposer une question sur un point de la dernière analyse, ensuite tout seul. C'est quand je vous ai parlé de la différence de problématiques messianiques à l'intérieur du monde juif entre les pharisiens et les sadducéens. Évidemment, l'identification est un peu anachronique, mais je veux dire les tendances du pharisaïsme ou du sadducéisme, comme on dit. Je vais essayer de repréciser pour cette question. Ça veut dire que même dans le monde juif contemporain, dans l'intelligentsia, je ne sais pas comment on peut dire ça en français de façon plus claire, le monde universitaire, cultivé, etc. Pieux ou pas pieux, c'est notre problème. On trouverait ça même chez des gens pieux. Cette idée qui a surtout été mise en forme, d'une part par Ishaïa Glebovitch, dont vous avez peut-être entendu parler, et d'autre part aussi par Gershom Scholem, que nous appelions, il est mort récemment, que nous appelions Shalom, le professeur Shalom, en Israël, l'idée que l'authenticité de l'attente messianique est dans l'attente que la valeur du messianisme juif, c'est précisément d'attendre quelque chose qui ne doit pas arriver dans l'existence. Parce qu'arriver dans l'existence, ça se dégrade. Et qu'il n'y a de messianisme accompli qu'un faux messianisme. C'est pas si j'ai suffisamment clairement dit cela. Le mérite, c'est d'être parmi les méchakis, ceux qui attendent, et pas les ma'aminim, ceux qui croient que ça viendra. On a différentes attitudes. Je crois qu'il s'agit d'une sensibilité juive tellement écorchée par les faux messianismes, et en général ce sont des juifs européens qui pensent comme ça, par contraste avec la messianité chrétienne. Donc une sensibilité juive tellement écorchée par les faux messianismes qu'on a fini par s'habituer à ce que le vrai Messie est un Messie qui n'existe pas. Que le vrai Messie est un Messie. Entre les pharisiens et les sadducéens, c'est que les sadducéens s'accommodaient d'une souveraineté étrangère en Judée à condition qu'on leur laisse la liberté de culte. Tandis que les pharisiens, c'était l'indépendance nationale qui passe d'abord. C'est en cela que les pharisiens sont messianiques d'accomplissement et les sadducéens uniquement de repousser l'idée du temps messianique à la fin des temps. Et on aura certainement reparlé ce soir, simplement, mais je voudrais quand même terminer le paragraphe. Je vais prendre, avant de vous donner la parole, parce que vous avez une question, une histoire que je vous ai un jour racontée, que je raconte souvent, parce qu'elle caractérise ce problème. Je vais vous la raconter de nouveau. C'est le Rav Kook qui nous l'avait raconté il y a très longtemps. Et prenons là, si vous voulez, sous forme d'apologue chassidique. Il raconte qu'un jour, dans une petite ville d'Europe centrale, on attendait tellement le Messie qu'on a fini par payer quelqu'un pour être guetteur à la porte du village pour prévenir les Juifs si jamais le Messie arrivait. On ne sait jamais, ça peut arriver. Alors on a trouvé quelqu'un qui n'avait rien à faire et on lui a payé son temps pour attendre le Messie. Et histoire, à l'intérieur de l'histoire, sa femme lui a demandé, dis-moi, tu es bien payé? Il dit, pas tellement, mais c'est un métier d'avenir. Alors en fin de compte, le Messie arrive. Le Messie arrive et le guetteur prend ses jambes à son cou et... C'était un guet-apens. Et puis il va à la synagogue, j'allais dire, ils sont le chauffeur. Pour appeler les juifs, ça y est, il est là, il est là, vite. Bon, alors le conseil des notables, des juifs pieux, se rassemble dans la synagogue. Et ça commence à discuter. D'abord pour savoir si c'est vraiment le Messie. Ensuite pour savoir, et si c'est vraiment le Messie, comment on doit l'accueillir? Est-ce qu'on doit mettre les bas blancs ou les bas noirs? Est-ce que, et ça discute pendant ce temps. Le Messie arrive dans la rue, il y avait les voyous, puisque les juifs pieux étaient à la synagogue. Alors il s'approche des voyous, et il leur dit, qui vous êtes? Il dit, nous sommes des juifs. Il s'est dit, ils sont bizarres, mes juifs, ils n'ont même pas de barbe. Et qu'est-ce que vous attendez? Alors il dit, ben, nous attendons d'aller en Eretz Israël. Alors le Messie dit, ben, c'est mes juifs, je vous emmène, et il les emmène. Et pendant ce temps, les juifs pieux discutent à la synagogue. En fin de compte, je ne sais pas par quel miracle, ils ont fini par se mettre d'accord. Ils descendent et ils voient au loin une troupe, la Shomer HaTzair, s'en aller avec le Messie en direction d'Eretz Israël. Ils se mettent à courir. Messie, attends-nous. Alors le Messie se tourne vers les voyous et lui dit, mais qui c'est ça? Alors le responsable international de la Shomer HaTzair demande pieusement au Messie, « Messie, je t'en prie, sois gentil, attends-les, c'est quand même des Juifs. » Vous voyez ce qui se passe. Alors je referme la parenthèse et on revient au maral. Qu'est-ce que vous vouliez demander?
Je voudrais
Très bien. Bon. ça pourrait être un sujet entier. Et pas de la moitié d'un semi-nerf, vous savez ce que c'est, la moitié, mais d'un nerf tout entier. Mais pour revenir au problème, cette histoire nous est racontée dans l'histoire de la famille d'Abraham. Abraham a deux fils, Ishmaël et Isaac. La querelle d'Ishmaël contre Isaac, c'est la terre. Relisez le texte. Isaac a deux fils, Jacob et Ésaü. La querelle d'Ésaü contre Jacob, c'est le ciel. Ça veut dire qui est Israël ? Des bénédictions. C'est clair. Là, nous avons un problème politique que l'histoire a dévoilé. C'est le conflit de l'islam contre le peuple juif, à qui appartient cette terre, que la Bible appelle la terre d'Israël. Et d'autre part, l'histoire a dévoilé qu'il y a un conflit théologique entre l'Église et le peuple juif, qui est Israël des promesses. C'est bien clair. Donc cette histoire, c'est l'histoire de l'identité de la famille issue d'Abraham. Et si la Bible nous l'a raconté, elle nous a raconté aussi la fin. Nous savons que c'est Israël, le peuple juif, descendant de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, qui arrive au temps messianique et qui arrive victorieux. Netzach Israël, lo yishaker. Est-ce que ça veut dire que c'est programmé, que c'est fatal? Mais non, c'est ça que nous étudions, dans un petit détail de l'ensemble. Ça veut dire que c'est notre identité. De la même manière qu'un homme a une tête où il y a deux yeux, deux oreilles, une bouche, un nez, il a deux bras, il a deux pieds. De la même manière, Israël, ça commence avec Abraham. Il y a l'éventualité Ishmaël, l'éventualité Isaac. Ça continue avec Isaac. Il y a l'éventualité Ésaü, l'éventualité Jacob. C'est Jacob qui finira par être nommé Israël. C'est ça notre histoire, c'est ça notre identité. Plus mieux nous sommes, mieux plus Israël, plus c'est facile. Moins mieux nous sommes, moins bien Israël, plus c'est difficile. Et je veux dire par quel biais, j'ai une fois posé ce genre de question à mon maître à Jérusalem, au Rav Kook. Au moment de la guerre des six jours, lorsque les Israéliens ont délivré Jérusalem à la date prévue par les textes, connus de ceux qui connaissent ces textes, les plus étonnés, c'était bien sûr ceux qui connaissaient la date. Les autres n'avaient pas de quoi s'étonner. Alors j'ai posé la question au Rav Kook, j'ai dit, mais enfin, c'est quand même énorme. Et un petit sourire, je lui ai dit, quelle est ta question? Ça veut dire, nous ne sommes pas libres? Je lui ai dit, oui, c'est ma question. Il m'a répondu comme ça. Et après, j'avais une autre question. Et il m'a répondu comme ça. Il a dit, si un jour, on vient te dire qu'une femme est enceinte, d'abord, tu dois dire Mazal Tov. Et après, tu sauras que si tout va bien, dans 9 mois, elle aura un enfant. Et bien, c'est ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas libre. Ça veut dire que, quand ça commence, c'est comme ça que ça se passe. Alors les prophètes nous ont dit, ben voilà, vous avez une histoire à accomplir. Si vous méritez, c'est le jour où vous méritez. Si vous ne méritez pas suffisamment, les 9 mois, ça tombe ce jour-là. Sachez-le. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas libre? Le grand mérite, c'est que cette femme a eu un enfant. C'est pas que celui qui sait que dans 9 mois, il y a un enfant, c'est un prophète. Ça aussi, c'est vrai. Bon, mais ça, c'est secondaire. Le problème, c'est d'être cette femme qui a un enfant. Et le sourire mystérieux dont nous avons parlé. Vous avez compris?
Il y a des dates sans événements.
Oui, ça veut dire qu'il y a des dates et que les événements peuvent être résorbés parce qu'on ne les a pas mérités. Et alors, ils s'expriment symboliquement, l'humour de l'histoire. Il y a des rendez-vous possibles, mais nous vivons le dernier des rendez-vous, c'est-à-dire que celui qui arrive indépendamment du mérite, c'était le problème d'hier, je crois, dans la religion. Et l'indice, encore une fois, c'est que ce n'est pas une secte, c'est que ce n'est pas, je ne sais pas comment vous dire, une communauté de mystiques qui a fait Israël, c'est le peuple juif. Et c'est la première fois que ça arrive comme ça. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, les prophéties concernaient le peuple juif. Ils ne concernaient pas telle ou telle manière d'être croyant dans le peuple juif, ou d'être d'ailleurs incroyant, peu importe. Or, c'est ce qui me frappe. C'est pourquoi les juifs de la diaspora n'arrivent pas à comprendre qu'il s'est passé quelque chose à différents niveaux, mais au moins sur ce point. En Israël, nous ne sommes pas la communauté juive, la communauté israélite. Nous sommes la nation d'Israël. Ça n'a rien à voir. Or, les prophéties concernaient la nation d'Israël, pas la sainte communauté d'Angers, de Trifouille-les-Oies ou de Chicago. Vous comprenez le problème? Qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que l'on peut comprendre l'exil qui suit la destruction du premier temple comme une espèce de préfiguration, un raccourci de l'exil, de ce moment-là, le grand exil.
Oui, c'est-à-dire que si au moment du retour, au temps d'Ezra et de Néhémie, le peuple juif comme nation avait suivi Ezra et Néhémie, et pas seulement une communauté de croyants, eh bien le deuxième temple aurait été le troisième. Et nous avons des textes comme ça.
C'est pas là où est le pourim ?
Quel pourim ?
On serait l'histoire.
Oui, mais je vais te dire, ce problème est très vaste. Pourim, c'est la commémoration d'un miracle de salut à cause du risque d'une destruction grave. Garde ton risque de destruction et garde ton pourim, j'en ai pas besoin. Vous avez compris ce que je veux dire? Par exemple, imaginez quelqu'un qui fait une fête parce qu'il a été sauvé d'un grand malheur. Eh bien, garde ton malheur et garde ta fête. Je pense que ma réponse est claire. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? S'il fonctionne, c'est que c'est à la fois un homme qui fait fonctionner un phénomène et un phénomène qui fonctionne par un homme. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je commence par cette question. Nos textes sont très clairs. Le Messie, en hébreu, c'est le chef politique de la nation d'Israël. C'est premièrement cela. Il y a tout un programme, mais c'est premièrement cela. Pendant 2000 ans, il n'y avait pas d'indépendance politique, la nation d'Israël. Dès qu'il y a, c'est ça le commencement des temps messianiques. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la tête du gouvernement. En hébreu, c'est ça, Melech HaMashiach. Alors nous le méritons, envergure, nous le méritons. Mais quelle différence? S'il s'agit de ça, il s'agit de ça, et pas d'autre chose. Bon. Lisez Maïmonide, lisez toute la littérature traditionnelle. Vous allez me dire, mais il y a des rabbins contemporains qui ne pensent pas comme ça. Encore une fois, il y a des rabbins contemporains dont ce n'est pas la compétence de savoir penser tout court ces choses-là. Parce qu'ils ont étudié autre chose, c'est pas ça. Et leur réaction, c'est une réaction de sensibilité, de piété subjective. Vous comprenez le problème? Alors, référez-vous au texte. Ce n'est que dans les milieux où on ne croyait plus au judaïsme que, voulant rester juif sans même, quand même, sans Messie, on avait un problème avec ça. Allons dire que ça avait le Messie. C'est pas un homme. Le Messie, c'est une époque, c'est un phénomène. Des bêtises. Il faut prendre les textes comme elles sont. Pour qu'il y ait une souveraineté politique, il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête. C'est lui qu'on appelle le Messie. Mais sans souveraineté politique, il n'y a pas quelqu'un. Ça, c'est le phénomène. Mais non, mais désolé, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, 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 non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le commencement du processus, c'est ça, la souveraineté politique. Mais quand les Juifs, après 2000 ans, disent Mashiach, Messie, ils pensent au Messie de la résurrection des morts. Ça, c'est la fin du processus. Il ne faut pas confondre. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi on ne parle pas comme ça. Si vous me posez la question, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un phénomène, je vous dis, c'est premièrement un homme. Pourquoi? Parce que le phénomène en question, c'est la souveraineté politique des Juifs sur leur terre. Ceci dit, quand les Juifs disent Messie, il y a tellement de connotations qu'on ne peut pas parler comme ça. Ça y est, c'est clair. C'est-à-dire, nous sommes au début d'un processus qui a commencé. Et pour nous, croyants, en tout cas les sionistes croyants, nous savons très bien que le bon Dieu ne joue pas aux billes. S'il a commencé une mitzvah, il ira jusqu'au bout. Je pense que c'est clair. Nous sommes admiratifs, nous, devant les sionistes non-croyants. Parce que même sans croire, ils y croient. Donc ils y croient plus que nous. J'ai compris. Et c'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. Ken, oui. Hein? Ah, la première question, le mot en hébreu moderne, c'est Zehut. Mais en hébreu traditionnel, c'est Nefesh. C'est vide. Ken. Oui. Vous savez, il y a plusieurs réponses à différents niveaux. La réponse la plus importante, peut-être, si je comprends votre question, c'est parce que c'est la fin, l'achèvement du temps de la prophétie. La révélation va cesser. Alors le nom de Dieu se cache. Il est en allusion dans beaucoup de... La raison qu'on donne habituellement, c'est que, étant donné que ce livre devait être traduit dans les autres langues, on a craint que les traducteurs donnent le nom de l'idole de telle ou telle société comme traduction du nom de Dieu. Mais c'est une explication qui n'est pas complète, parce que tous les livres de la Bible ont été traduits. Finalement, il y avait cette éventualité de traduire les livres de la Bible. Mais peut-être on profiterait pour vous citer un enseignement du Sefer HaChassidim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école des Chassidim allemands, de Rabbi Yehuda Chassid, de la famille du Rocker, qui était bien avant le Chassidim polonais du Baal Shem Tov. Il y a un grand livre qui est le Sefer HaChassidim, qui est le Shulchan Aruch de cette communauté. Et où il explique ceci. C'est que le nom de Dieu n'est donné dans la Bible que quand commence les engendrements de l'homme. Dans le premier chapitre, le sujet, c'est la création du monde. Le nom est Elohim, Dieu. Dès qu'il va s'agir de l'homme et des engendrements qui mènent à l'identité messianique de David, alors le nom propre, le tétragramme, est employé. Et lorsque les engendrements s'arrêtent, le nom de Dieu est caché. Or, les engendrements en Israël se sont arrêtés avec la reine Esther. C'est la raison pour laquelle le livre qui raconte l'histoire de la reine Esther cache le nom qui ne se dévoile que dans les engendrements. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Sûrement pas, mais enfin, vous avez un midrash qui compare Sarah, qui est la première matrice des engendrements d'Israël, avec Esther, en comparant le fait qu'Esther a régné sur 127 provinces de l'empire d'Assuérus et que Sarah a vécu 127 ans. Et ce midrash dit, la grâce a commencé avec Sarah, elle s'arrête avec Esther, de laquelle il a été dit, et elle trouva grâce aux yeux du roi. Vous vous rappelez du verset. Ça veut dire que les engendrements commencent avec Sarah et s'arrêtent avec la reine Esther. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ne pas remarquer que ce salut de Pourim, que le peuple juif a été sauvé du massacre au temps de Haman, a été payé par le fait que la reine Esther est devenue Goy. Elle est passée chez les Goyim. Et la royauté a quitté Israël et est rentrée chez les Goyim. À la fin des temps d'exil, elle quittera les Goyim et reviendra en Israël. Vous avez compris le problème. Et on ne peut pas ne pas remarquer que de notre temps, le processus a commencé à la guerre de 14-18, toutes les grandes dynasties s'arrêtent. Et remarquez cela. La chose la plus spectaculaire, c'est la Perse. La grande dynastie de la Perse, Choum, Cloum, Camarnou, c'est fini. L'a remplacé quelqu'un qui porte un nom qui ressemble tellement à Haman que c'en est trop. Il s'appelle Khomeini, mais c'est Haman. Alors en tout cas, pour revenir au problème, la dernière grande dynastie, c'est celle d'Angleterre. Et comme vous le savez, il y a aussi des prophéties là-dessus. Vous le savez peut-être que c'est probablement l'avant-dernier roi, c'est une reine en plus, bon. Il en reste même, je crois, un demi-roi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc, tout se passe comme si le Malchut va être rendu à Israël. Alors, c'est parti par une femme, c'est revenu par une femme. Vous avez entendu parler de Golda Meir. Qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans? Je me souviens que lorsque Carter, avait reçu Golda Meir une fois, vous savez qu'elle allait toujours en Amérique avec son cabas, parce qu'elle devait ramener des avions et des tanks qu'il fallait. Et alors, Carter avait dit, ça m'avait beaucoup impressionné à la télévision, il avait dit, j'ai regardé les yeux de la reine Esther, quand Golda Meir a dit, ces gens-là, ils prophétisent ça, qu'est-ce qu'ils prophétisent? Bien, alors, il nous reste plus de temps, on recommence demain. Mais alors, vraiment rapidement, je dois partir. Oui.
Alors, ça, est-ce que...
J'ai pas dit les musulmans, j'ai dit les arabes d'Israël. C'est pas la même chose que...
Est-ce que ça a un rôle par rapport à l'exil des juifs, le fait qu'il y ait, par exemple, des musulmans en France chez les Alex, on pourrait dire, est-ce que ça a un rôle parce qu'ils sont invités aussi comme en exil?
Je crois que les juifs doivent se préparer, c'est urgent, à donner le relais de la mission d'exil aux descendants d'Ésaü, les chrétiens, et aux descendants d'Ishmaël, les musulmans. Et nous allons redevenir les hébreux, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Bien, alors à demain. À ce soir, oui.
Pourrions-nous vous asseoir? Prenez place, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer. Nous attendons que vous preniez place pour que nous puissions commencer. J'ai l'honneur et le plaisir ce soir d'ouvrir le débat qui va avoir lieu sur la diaspora et Israël et qui va clore le séminaire que Manitou Ashkenazi a dirigé, a dirigé chez nous à Rachi cette année et l'hommage que lui a rendu la communauté juive de France au cours d'un grand dîner, au cours de également ce séminaire, au cours du cocktail qui a lieu tout à l'heure. Mais avant d'entreprendre la discussion et le débat, et l'exposé, je voudrais saluer parmi nous, ce que nous avons déjà fait tout à l'heure, Madame Gourdin, qui a bien voulu se déranger et venir parmi nous. Et elle est restée, malgré son grand âge, parce qu'elle est très jeune encore, parmi nous, pour dire quelques mots, parce que Manitou a été l'élève du maître Gourdin, qui a été son mari, Zichrono Livracha, et elle voudrait dire quelques mots. Je lui laisse la parole, Madame Gourdin. Oui, ça marche, ça marche.
Je veux remercier Manitou pour sa fidélité à mon mari quand il était malade et d'avoir donné l'occasion à cet homme qui avait beaucoup à dire et voulait le transmettre aux jeunes, venir tous les jours pendant un certain temps pour l'écouter, et je lui remercie beaucoup pour cela. C'est tout ce que je veux dire.
Bien, je dois dire, peut-être un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si le QEJ a existé, et avec lui aussi d'autres institutions d'enseignement, dans la forme que nous avons pu donner à ce travail, et dans l'efficacité que le bilan de 40 années, les 25 ans, c'est l'anniversaire officiel, et ça fait déjà 40 ans que ce travail a existé, eh bien, c'est grâce à Jacob Gourdin, dont je voudrais citer le nom en hébreu. Il s'appelait Yaakov ben Yitzhak Gourdin, Zichrono Livracha. Et je suis très fier de ce que Madame Gourdin ait pu venir ce soir avec nous. Il y a 20 ans, le QEJ à la Sorbonne avait rendu hommage à la mémoire de Jacob Gourdin. Et c'est très bien que Madame Gourdin soit là ce soir. Pour le 25e anniversaire du QEJ, c'est aussi à son mari que va cet hommage.
Comme tu veux, toi, si tu veux, je commence.
Bien, ce qui avait été prévu par donc, l'équipe de Rachid QEJ pour cette soirée de clôture, en tout cas des sujets qui ont été traités dans les soirées, puisque nous avons encore demain matin un dernier texte du Maharal dans les études de texte. C'était une table ronde sur l'avenir de la culture juive à travers Israël d'un côté, la diaspora de l'autre. Et je pense que dans la pensée des organisateurs du séminaire, il ne s'agissait évidemment pas du tout d'une table ronde problématique politique ou idéologique à proprement parler, mais d'une réflexion sur les perspectives culturelles de notre temps, puisque nous sommes au temps où nous sommes, mais surtout aussi pour l'avenir. Nous avons tous l'impression que le peuple juif, qu'il soit en diaspora ou en Israël, vit depuis quelques générations un temps très accéléré. Et il n'est pas nécessaire de citer les événements de la semaine, du jour, d'hier, d'avant-hier, de demain, d'après-demain. C'est depuis la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, vraiment une accélération des événements qui concernent le monde entier finalement, mais qui concernent quand même très centralement le peuple juif. Je dirai donc quelques mots d'introduction de ce débat. En principe, cette soirée aurait dû être introduite par un exposé de Michel Prince. Et je pense que nous aurons une autre occasion de le retrouver, parce que nous avons cherché quand même un participant à la table ronde qui ne soit pas israélien. Tant Lévrier que moi-même, nous sommes à la fois, pour une première partie de notre vie, membre du judaïsme de diaspora, et pour la deuxième, citoyen israélien. Il y a un peu quelque chose de faussé dans cette table ronde, s'il n'y a pas aussi la voix qui représenterait le point de vue de la diaspora, encore une fois dans cette problématique proprement culturelle. Et Lévrier m'a dit, lorsque je suis arrivé à Paris, qu'on n'avait pas trouvé de troisième homme, si j'ose dire, mais nous étions d'accord pour demander avant même de commencer que si quelqu'un dans la salle voulait intervenir escalité, il sera prié de le faire. Indépendamment d'ailleurs des questions qui ne manqueront pas d'être posées. Alors, je voudrais donc introduire ce débat pour ma part par trois ordres de remarques. D'abord une remarque purement existentielle. Ce que j'ai dit, les événements que l'humanité vit de notre temps sont des événements très accélérés, très denses, très importants. Ce sont des événements de mutation et c'est évident, pas seulement au niveau de la culture, ce qui est un point très important de ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui, mais aussi au niveau de l'avenir pur et simple de l'humanité, tout le monde en a conscience. Et que cependant, d'une certaine manière, cela concerne le peuple juif et Israël de façon assez centrale. Et je ne voudrais pas qu'on voit dans cette formule un israélocentrisme ou un judéocentrisme exagéré. Et c'est pourquoi j'aurai une première remarque à présenter sur ce point. Ensuite, je voudrais traduire et analyser un texte du Rav Kook qui formulerait la raison pour laquelle la conscience juive habituée pendant 2000 ans à réfléchir sur sa destinée en relation à l'universel humain dans la problématique de l'exil et de la diaspora, la conscience juive est prise par une perplexité aujourd'hui dans cette bipolarité de l'identité juive, la polarité de l'exil et la polarité d'Israël. Et un troisième texte du Talmud de cette fois, où je reprendrai une remarque que j'ai eu l'occasion d'analyser dans la soirée de dimanche soir, qui rassemblait non seulement les anciens du QH, mais aussi un assez grand nombre des dirigeants de la communauté à Paris. Avant de commencer, je voudrais quand même dire à Lévrier et aux dirigeants de la maison, en particulier à notre ami Bernard, le président de Rashi QH, dire et redire à quel point j'ai été, je peux dire impressionné, mais en tout cas très touché de ce qui s'est passé cette semaine. Je reprendrai quelques-uns des mots de tout à l'heure. Dimanche soir, nous avons eu l'impression, tous ensemble, et surtout ce qui était arrivé d'Israël, les membres de ma famille et moi-même, que la communauté existe dans le sens le plus noble du terme, même si c'est clandestin, caché, et que ça ne se dévoile qu'à certaines occasions particulières. Et c'est extrêmement réconfortant de percevoir cela, qu'au-delà des institutions et de tous leurs problèmes, et Dieu sait qu'il y en a, il y a quand même la communauté, la chose commune. Et d'autre part, de dire que la deuxième chose que je voulais dire m'échappe, elle reviendra peut-être tout à l'heure. C'est peut-être parti avec les timbres de la voix qui sont restés dans l'avion. Et en tout cas, je reviens à ma première remarque. Je crois qu'on ne peut pas être frappé qu'un événement important a eu lieu dans la génération précédente. Un événement double, d'ailleurs. C'est un problème pour lui-même, et beaucoup d'auteurs contemporains commencent déjà un peu à en traiter. Et je crois que la génération qui a vécu ce double événement, le risque d'anéantissement du peuple juif dans la civilisation occidentale, et d'autre part, la restauration de la nation hébraïque en Israël, avec tous les problèmes que cela pose des deux côtés, et ce double événement présente une problématique que je voudrais un petit peu élucider. On en parle trop souvent dans une relation de cause à effet, comme si c'est Auschwitz qui avait permis Israël. Or, Auschwitz et Israël sont des événements, je schématise bien sûr symboliquement, sont des événements très contemporains. à quelques secondes de l'histoire près par rapport à une histoire qui a duré, pour nous, les Juifs, Israël, le peuple hébreu, qui a duré plus de 4000 ans. Quelques dizaines d'années, et pour 4000 ans d'histoire, c'est la même seconde de l'histoire. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre Auschwitz et Israël. Et s'il y en avait une, il faudrait la... Dieu. Qu'il fallait payer ce prix-là pour avoir cette gratification-là, quelque chose de ce genre. C'est blasphématoire. S'il avait fallu, a priori, payer ce prix-là, on aurait pu attendre encore 6000 ans que ça s'arrange autrement. Et cette idée s'exprime aussi par le fait qu'on a l'habitude en français, et j'aimerais bien qu'un spécialiste nous dise un jour qui a inventé cela, je ne crois pas que ça puisse être un juif, on a l'habitude de dire en français, pour dire la catastrophe de la Shoah, de dire l'Holocauste, ça aussi c'est blasphématoire. Parce que l'Holocauste, ça signifie un sacrifice consenti et de sanctification. Or, ce n'était pas un Holocauste, c'était un assassinat. L'assassinat d'un peuple. En hébreu, ça s'appelle la Shoah. C'est un mot qui se trouve dans les prophètes. Et ça veut dire la catastrophe de la destruction. Et en Israël, on a l'habitude, dans certains milieux, d'employer plutôt le mot de Horban, qui rappelle la destruction du temple. Donc je ne crois pas qu'on ait le droit de dire qu'il y a une relation de cause à effet dans les catégories logiques habituelles de la logique occidentale. Ce sont deux événements qui sont concomitants, qui sont contemporains, et qui sont tous les deux des événements de fin de temps d'exil. L'un, la Shoah, a été un événement catastrophique. L'autre, Israël, est le point de départ d'une naissance difficile, d'une naissance dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est arrivé ensemble, ensemble dans le temps. Ce sont deux réalités parallèles, mais qui sont de sens radicalement différents. Bien sûr, il y a des liens à l'échelle des individus. Mais je crois qu'à l'échelle de l'histoire d'Israël, ce sont deux événements massifs qui nous ont affectés l'un et l'autre dans la même génération. Mais on n'a pas le droit de dire que l'un est la cause de l'autre, réciproquement d'ailleurs. Et peut-être que si nous en avions à en parler, il s'agit là pour le moment d'une remarque de préface. Eh bien, j'aurais à dire, et je ne suis pas seul à le penser, qu'au contraire, la Shoah a empêché l'État d'Israël d'être plus fort, d'être plus vivant, d'être plus vivace. Nous avons perdu 6 millions de citoyens potentiels. Nous avons surtout perdu une diaspora qui a perdu son cœur, quelque chose de cet ordre. Des auteurs contemporains disent que la diaspora a perdu sa mémoire. Et je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. La mémoire, d'ailleurs, ça se récupère. Mais elle a perdu, je ne sais pas, sa joie de vivre. Et cela, nous, les contemporains, nous sommes encore en train de vivre ces résonances. Mais pour dire que penser les choses dans une relation de cause à effet nous apparaît et nous apparaîtra toujours comme blasphématoire. Seulement, il faut dire que cet événement, double dans ces deux dimensions, d'une part la Shoah, d'autre part Israël, s'inscrivent dans toute une série d'événements universels. Il y a simplement un indice différent, disons un indice de paroxysme, mais ce sont vraiment des événements significatifs du temps universel que nous vivons. En effet, il n'y a pas eu que les Juifs qui ont été persécutés. Lorsqu'on fait le bilan effroyable des statistiques, on s'aperçoit que numériquement, l'humanité entière a payé un tribut considérable à cette barbarie du nazisme. Il n'y a pas que les Juifs qui ont été massacrés ou persécutés, mais ils l'ont été sans doute avec une intention de totalité. Ce qui était visé, c'était la néantisation, alors que pour les autres peuples atteints, cela a été la persécution très grave. Ce n'était pas de la simple persécution. Ça a été un crime contre l'humanité, mais en ce qui concernait le peuple juif, c'était vraiment une intention de néantisation. On pourrait dire cela en latin, ad nihilo, jusqu'au néant. Et c'est in extremis, pour dire les choses en latin, que nous en sommes sortis dans l'état où nous en sommes sortis. Corollairement, ce n'est pas seulement la nation hébraïque qui a été restaurée. Je voudrais éviter le terme de ressuscité. En tout cas, on pourrait le prononcer autrement, ressuscité. D'autres peuples ont retrouvé leur indépendance. Je ne sais pas quel adjectif employer, national, culturel, enfin disons, le chemin de retrouver leur identité dans la joie de vivre. C'était les peuples colonisés. Et l'apparition de la société israélienne s'inscrit aussi, bien que très paradoxalement exploitée par des politiciens anti ces choses-là, dans ce grand mouvement de la fin de l'impérialisme occidental. Seulement là aussi, il y a une différence d'indice. Les autres peuples, les autres nations existaient comme telles, alors que c'est ex nihilo que la nation juive, en tant que nation, je dis bien, est réapparue, après une éclipse de 2000 ans. Et je crois que sur cet écran de remarques, nos problèmes de tension, de polarité d'identité entre la diaspora continuant à être la diaspora et Israël pensant son avenir en termes de culture nationale hébraïque en tant que nation et pas seulement en tant que catégorie linguistique purement et simplement, et que nos problèmes, je pense, doivent être pensés pour trouver le minimum de sérénité qui permettrait de transmettre à nos enfants une mémoire beaucoup plus cohérente que cet ensemble de tensions, de parallélogrammes de forces qui vont dans tous les côtés. Disons que ce chaos du recommencement de notre histoire, peut-être que j'en parlerai un peu plus en conclusion. Et donc effectivement, nous sommes les témoins d'une mutation de l'histoire universelle, mais pas n'importe quel témoin. Des témoins concernés de la façon la plus paroxysmique, si c'est comme ça qu'on dit en français, paroxysmal, je ne me souviens plus. Voilà la première remarque. Je crois que ça nous explique pourquoi la littérature juive contemporaine, qu'elle soit hébraïque, israélienne, qu'elle soit dans d'autres langues, et en particulier dans les langues véhiculaires d'Europe, francophone en particulier, à cet accent un peu exalté, un peu trop parfois intense, comme s'il y avait une sorte de tendance du génie juif, du génie culturel juif, à l'imitation du langage des prophètes. Il y a quelque chose de cet ordre. Mais peut-être que le temps est venu d'atténuer un peu ce langage un peu trop pathétique, un peu trop, je cherche un terme qui serait plus précis, un peu trop pastiche de la Bible. C'est pas encore le temps de la prophétie. Peut-être. Ça viendra, sûrement, mais il faut éviter qu'il y ait quelque chose d'un peu trop exagéré dans ce sens. Il est absolument important que le souvenir d'Auschwitz et de Israël naissant il y a 35 ans, 36 ans, ne disparaisse jamais. Mais je crois que dire cela avec encore trop de cris, c'est un peu exagéré. Ou alors les cris devraient être d'une autre nature que simplement le pathétique. Je crois que les témoins de vérité sont beaucoup plus entendus lorsque leur langage est sobre. C'est pourquoi il nous arrive d'être un peu gênés de l'artificiel qu'il y a dans au moins une série d'harmoniques, de l'exagération du vocabulaire juif. Dans tout ce qui s'écrit à l'encre juive, si j'ose dire les choses comme ça. Mais peut-être que je reviendrai sur ce point tout à l'heure.